Bonjour les amis et bienvenue sur ce nouvel épisode de Burger Ring, Burger Ring, le podcast le plus gras et le plus protéiné du game, les amis. Et oui les amis, et oui, Hulk Hogan, le grand Hulk Hogan, le seul et unique Hulk Hogan, Terry Eugene Bollea, nous a quittés il y a quelques jours, a quitté le monde horizontal, a quitté le monde physique. Ne vous inquiétez pas, il est toujours là, il n'est simplement plus là matériellement parmi nous. Il a rejoint le Christ à sa droite, comme le disait mon avocat Maître Grolambert, que je salue. Donc ne vous inquiétez pas, il ne faut pas être triste, je ne le suis moi-même pas. Je suis beaucoup plus triste du monde qu'il nous laisse et qui sera un monde moins... moins hulkamaniesque que quand il était là. Donc voilà, c'est plus son absence qui fait souffrir que sa disparition, puisque sa disparition n'est que physique, les amis. Alors, vous savez, on va faire un petit épisode un peu spécial parce que Hulk Hogan, ça ne vous a pas échappé. Pour ceux qui écoutent ces podcasts, donc qui les écoutent sur écran et qui ont accès aux vignettes de Spotify, c'était l'égérie de Burger Ring, hein, voilà, j'avais choisi Hulk Hogan comme égérie de ce podcast pour des raisons que je vais vous expliquer et qui font que sa disparition est extrêmement triste, non seulement pour le monde, mais aux yeux de l'ex-enfant que j'étais et que je suis quand même resté un petit peu. J'ajoute au passage que j'avais acheté cette image, je ne l'avais pas piquée. C'est une image qui vient d'un Shutterstock dont j'avais acheté la licence pour une exploitation. Donc j'avais fait les choses dans la légalité par respect pour le boss. Voilà, alors les amis, Hulk Hogan, c'est surtout un phénomène sportif avant tout, hein, avant de venir comme ça heurter de son charisme la pop culture américaine des années 80-90. C'est un athlète, je vais vous citer, je l'ai sous les yeux, je ne le connais pas de mémoire, hein, enfin je connais ses titres principaux de mémoire, mais je vais vous citer quand même ses titres, c'est d'usage lorsqu'on parle d'un grand sportif qui disparaît. Il a été en tout 12 fois champion du monde, 6 fois champion du monde poids lourd au sein de la WWA et 6 autres fois champion du monde dans la licence concurrente, donc la WCW. Il a été champion du monde par équipe à la WWA avec notamment Edge. Il a été une fois champion par équipe de l'IWGP avec Antonio Inoki et une fois champion par équipe de l'AWA avec Gene Kiniski. On peut citer également ses autres titres. Une fois champion Southeastern Heavyweight de la NWA. Deux fois champion Gulf Coast Heavyweight de la NWA. Il a été deux fois vainqueur du Royal Rumble en 1990 et en 1991. Il a été intronisé au Hall of Fame de la WWE en 2005. Il y avait été enlevé pour des questions polémiques sur lesquelles on va revenir. Puis finalement, il y a été intronisé une seconde fois au Hall of Fame de la WWE en 2020. Voilà, les amis, le palmarès sportif. Alors, on va se dire la vérité, ça ne doit pas beaucoup parler à la plupart d'entre vous, puisqu'il était très difficile de suivre le catch en temps réel à l'époque, si on n'avait pas le câble. Alors moi, je l'ai déjà expliqué dans d'autres podcasts, mais j'ai suivi la carrière de Hulk Hogan via les cassettes que j'avais en général 3-4 ans en retard, quand elles commençaient à baisser de prix. J'arrivais à trouver les cassettes des WrestleMania, des SummerSlam et compagnie, que je regardais pas dans l'ordre. Donc ça a été très dur pour moi de comprendre le déroulement de la carrière de Hulk Hogan, mais je me régalais de ses apparitions. Je trouvais le personnage extrêmement marquant, extrêmement charismatique. Il faut quand même que je vous avoue que dans ma construction, j'aimerais pouvoir vous dire que j'ai été d'abord fan de Stallone et de Schwarzy, mais c'est faux. J'ai été d'abord un grand fan d'Hulk Hogan, notamment comme beaucoup d'enfants des années 90, via la série Thunder in Paradise. Je sais pas si vous vous rappelez de cette série. Alors là, vraiment, ça va être l'épisode du boomer qui vous parle de références qui vont vous casser les couilles si vous en avez pas. Mais je suis obligé parce que Hulk Hogan est rattaché à un très vieux monde. Et ce vieux monde, il est vieux. Donc, c'est vrai que pour beaucoup d'entre vous, les mots que je vais, les choses auxquelles je vais faire référence avec enthousiasme vont peut-être sonner un peu creuse pour les plus jeunes. Mais c'est pas grave. Je pense qu'à travers mon émotion et mes mots, vous comprendrez à quel point c'était quelque chose d'incroyable d'avoir cet athlète-là. Dans le panorama des sportifs de haut niveau qui nous alimentaient, des acteurs qui étaient aussi des athlètes de très haut niveau, qui nous ont inspirés, qui nous ont donné envie, pour certains d'entre nous, les plus réceptifs, d'être ce que nous sommes aujourd'hui, combatifs, résolus. Et c'était grâce à des modèles comme ça. Alors, tout simplement, en fait, Hulk Hogan est plutôt un lutteur de la fin des années 80, début des années 90, en tout cas, c'est sa période de gloire, c'est à ce moment-là. Il a été extrêmement marquant pour le catch, pour la bonne et simple raison qu'il est devenu... en fait, il a transformé le catch. C'est l'homme qui a transformé le catcheur. C'est pas le plus grand catcheur de tous les temps du point de vue de la technicité. Ce n'est pas, je sais pas moi, le plus grand catcheur de tous les temps du point de vue des pay-per-view. Voilà, parce qu'après, il y a eu un développement économique des fédérations dans lesquelles il est passé, qui ont permis justement d'investir, d'aller prendre du public toujours plus large. Donc, il y a l'ère Stone Cold Austin, qui a beaucoup, beaucoup marqué les fans de catch et qui est considéré comme une des plus grandes ères du catch. Par les puristes, bref, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais il est impossible de nier que Hulk Hogan a été l'homme qui a sorti le catch de ces milieux interlopes, comme on dit en sociologie, pour les projeter à la face du monde comme un espèce de... C'est un sport de niche et c'est tout d'un coup devenu un sport suivi mondialement avec une possibilité pour les catcheurs qui sont arrivés après lui d'acquérir d'autres montants hein, que ce à quoi ils pouvaient prétendre avant, d'avoir plus d'exposition, plus de contrats. Et c'est vraiment lui qui a fait du catch moderne ce qu'il est en termes de pop culture, en termes d'ampleur, en termes d'amplitude même, on pourrait dire, en termes de représentation. Et c'est la raison pour laquelle il est rentré dans la légende. Donc en fait, il faut savoir que le catch, on va parler un petit peu de l'histoire du catch, ça va me permettre aussi, cet épisode va être un petit hommage, alors non seulement à Hulk Hogan, mais aux catcheurs en général, aux catcheurs qui sont des hommes dont j'ai envie de vous parler, parce que j'en ai fréquenté un certain nombre. Ce sont des types avec de très 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 grandes, beaucoup de finesse, beaucoup plus qu'on ne le croit, et de très très grandes valeurs de sacrifice. Et alors j'avais déjà parlé en bien de Tom Larufa, qui est un de nos catcheurs français les plus en vue, les plus connus, les plus professionnalisés, avec évidemment Marc Mercier que j'avais cité. Cet épisode va être un espèce d'hommage et même peut-être un moyen de vous expliquer en fait. Les catcheurs le feront toujours mieux que moi, mais je crois avoir un bon sens de l'observation et être un bon narrateur. Donc je vais quand même tenter d'essayer de vous livrer ma vision du catch, des catcheurs, de leur esprit unique, de leur milieu comme ça qui est très fermé, qui est très codifié, qui a ses propres règles d'honneur et de fraternité et d'entraide. Et voilà, j'aimerais vous parler de tout ça. Alors il faut comprendre que le catch est une des plus vieilles représentations théâtrales de l'humanité. En fait, il faut comprendre. J'entends souvent « Ah ouais, mais les catcheurs, c'est de la merde parce que c'est pas des vrais coups. » Alors, c'est pas la question que ce soit pas des vrais coups. C'est la question que les coups sont scénarisés. Mais quand vous avez un mec de 100 kilos qui porte un mec de 130 kilos et qui le jette contre le sol du ring, contre un poteau, contre une corde, ça fait aussi mal que quand vous, on vous jette contre un poteau, contre une corde. Voilà. Après, évidemment, il y a des coups de poing qui sont portés avec beaucoup d'amplitude et qui ne sont pas portés pour mettre un KO. Ils sont portés pour mettre de l'amplitude, pour créer une douleur mesurée, qui ne soit pas une douleur létale ou une douleur qui mette hors de combat un des combattants, puisqu'il est question de faire durer le spectacle, mais en même temps, on ne peut pas trop tricher. On ne peut pas faire des coups qui ne portent pas, parce que le public le voit immédiatement, et surtout quand vous êtes près du ring. Donc, il faut arriver et trouver une juste mesure pour qu'il n'y ait pas de coups qui mettent hors de combat un catcheur, parce que les catcheurs sont des athlètes, sont des gens qui arrivent à faire des figures acrobatiques à certaines fois à plus de 130 kilos. Donc, ce sont des gens qui... c'est un petit peu différent des bodybuilders dans le sens où ils ont l'habitude de porter du poids en mouvement, un petit peu à la manière des lutteurs. Voilà. À ceci près que les lutteurs alors, ont des contacts, ont des forces physiques extrêmes, ont des contacts de tête. Chez le catcheur, ces contacts sont permanents, en fait. Les coups de tête, hein, les claques pectorales, et j'en passe, hein, les torpédos dans le sternum. Enfin, c'est un des sports où les athlètes meurent le plus tôt. Ça, il faut quand même le rappeler. Donc, être catcheur, c'est un sacrifice. C'est un sacrifice. On sacrifie sa santé. On sacrifie sa vieillesse pour faire vivre comme ça quelque chose d'épique. Mais je vais revenir dessus. Et en fait, les catcheurs se blessent énormément. Ce sont des gens dont la carrière est émaillée de blessures, autant que des boxeurs, que des footballeurs américains, que des combattants de MMA. C'est quand même quelque chose qu'il faut garder à l'esprit. Les catcheurs sont des gens complètement cassés. Et j'ai énormément de respect pour eux. Et je trouve extrêmement dommage qu'on les ramène à du faux combat, alors qu'il faudrait prendre la chose de l'autre côté. C'est du théâtre violent. Vous comprenez la différence, ce n'est pas du faux combat, c'est du théâtre violent. Voilà, ça qu'il faut comprendre. Et c'est parmi les plus vieilles pratiques et les plus vieilles représentations. Alors, il y a des nations comme ça qui portent un catch historique très ancien, et d'ailleurs, on le sent, et c'est ça qui en fait tout l'intérêt. Le catch aux États-Unis a été amené donc par les Anglo-Saxons. Vous aviez beaucoup, beaucoup de culture de catch en France, même si elle a été extrêmement combattue, elle a été extrêmement peu soutenue, parce que c'était considéré comme quelque chose de populaire, et vous savez que on est dans le pays du mépris de classe, hein, c'est-à-dire que plus on vous parle d'égalité, de liberté, d'égalité, de fraternité, moins il y en a en réalité, et on est dans le mépris de classe. Donc il y a eu un catch français depuis l'aube de l'histoire de France, qui a été comme ça complètement méprisé, délaissé, rejeté. Environ à partir des années 70, voilà, à partir de mai 68 en réalité, à partir de la montée de l'intellectualisme de gauche, qui considérait que c'était un spectacle de merde, qui était un truc d'ouvriers populaux de merde, voilà, c'est les mauvais ouvriers qui regardent le catch, voilà. Les bons ouvriers, ils aiment la musique classique et ils partagent les goûts bourgeois de Sartre et de je sais pas qui, voilà. Alors qu'en fait, nous avions une formidable école de catch en France, nous avions un style de catch en France, nous avions un public de catch, nous avions le bourreau de Béthune, l'ange bleu, qui étaient de véritables stars, qui étaient de véritables athlètes. Vous aviez parmi ces gens-là Lino Ventura. Et d'ailleurs, le catch français, je l'aime beaucoup parce que c'était un catch qui était rugueux, il était technique, il y avait de la prise, il était très très proche de ce qui pouvait se faire en lutte. Donc c'était un catch de bonhomme, quoi, voilà. Et c'était un catch d'ailleurs qui avait beaucoup... il y avait beaucoup de passages de boxeurs au catch et de catch à la boxe, puisque c'était un catch très physique, c'était un catch vraiment d'athlète. Donc il y avait comme ça une espèce de porosité entre ces milieux, avec des entraînements certaines fois communs entre les athlètes de catch parisiens et certains boxeurs parisiens. Donc je trouve ça assez génial, sur du renforcement physique, sur des trucs comme ça. Donc il y avait comme ça une espèce de grande famille, c'est comme les sports de force d'ailleurs. Les sports de force, la France était une des grandes nations des sports de force qu'on a plutôt tendance à assimilé aujourd'hui aux Anglo-Saxons ou aux Islandais. Alors les Islandais, c'est le cas depuis toujours, hein. Mais je veux dire, la France était une grande nation de sport de force, d'haltérophilie. Nous avons eu ça. Et en fait, tous ces sports-là ont été un peu brisés par l'esprit 68-art qui s'est mis à mépriser le corps et qui a privé les Français petit à petit de certains de ces sports-là. Alors il y a d'autres sports qui ont été mis en avant. Le judo a beaucoup été mis en avant. J'ai rien contre le judo. C'est un sport que je respecte énormément. Mais il manque le côté un peu gitanesque, hein, qu'avait enlevé le Japon, qu'il y a dans la boxe, hein, ou qu'il y a dans le catch. Voilà, le judo, c'est pas exactement un sport de gitan, même si au début, d'après ce que m'ont dit beaucoup de judokas, la première version du judo, c'était un truc d'une violence inouïe, ça pétait les bras, c'était infernal, donc ils ont réformé ça. Voilà. Et moi, j'aime le côté un petit peu interlope, hein, ce mot va revenir dans ce podcast. Vous irez regarder sur Google ce que veut dire le mot interlope, ce sont les milieux, voilà, ce sont les milieux un peu décalés, les milieux underground, pour vous la faire vraiment de manière vulgarisée, les milieux nocturnes, voilà, c'est la base, c'est que c'était les milieux de la nuit, quoi, voilà. Et donc vous avez comme ça ces sports-là qui ont été un peu disloqués par la pensée 68arde qui nous laisse avec une France un peu chiante où il n'y a de place que pour perdre au tennis. J'ai encore une fois rien contre le tennis, mais juste je pense que même quelqu'un qui adore le tennis peut convenir qu'il y a moins de côté gitanesque, spectaculaire et épique dans un échange, bien que certaines fois, c'est vrai que c'est très impressionnant, que dans des marmites dans la gueule de Jean-Claude Boutier et de Carlos Monzon ou du bourreau de Béthune qui essaie d'étrangler l'ange blanc, si vous voulez. Bon, c'est quand même des choses différentes, voilà. Et c'est pas une, je porte pas atteinte au tennis. C'est un sport que j'aime regarder de temps en temps. Il y a pas de problème. Hein. J'ai pas cette forme de mépris pour les autres sports. Voilà. Mais je signale qu'on est moins dans le souffle épique, dans la combativité vraiment rugueuse. Ça sent moins le vestiaire, si vous voulez. Ça sent plus l'emballage de la montre Tiger que t'as offert le sport. Et la BNP Paribas, c'est comme ça, mais c'est un milieu qui a ses codes aussi, qui a ses fonctionnements, donc voilà, c'est pas une attaque. Hein. En plus, je suis pas comme ça, même moi qui suis un enfant du Sud-Ouest, même vis-à-vis du foot, qui est critiquable pour énormément de raisons, je n'ai pas ce côté mépris du mec du rugby pour les autres sports, pour le foot en particulier, pas du tout. Je suis vraiment fasciné je suis vraiment fasciné spécifiquement par les sports de contact et les sports de combat, voilà. Et c'est pour ça que vraiment rien ne me régale plus que les sports où à un moment il y a deux viandes qui se rendent dans la gueule, hein, et c'est ça qui a bercé notre enfance, et pour ma génération en tout cas, le sport c'est pas autre chose que ça, si vous voulez, c'est l'énorme problème, quoi. C'est quand on était gosse, on nous disait le basket, oui. Ben, le basket, ils se mettent des coups de coude, hein. il y a des contre-pieds de malades, c'est violent, il y a des chocs et tout. Mais nous, ce qu'on voulait voir, c'était Brett Favre qui rentrait dans la fif de je sais pas quel mec des Miami Dolphins ou des Raiders de Los Angeles. Voilà, quoi, vous voyez, c'était un peu le truc à l'époque, quoi. Tu nous parlais pas de sport s'il y avait pas du sang par terre à la fin, quoi. Voilà. Donc c'est vrai que pour ma génération, notamment dans le Sud-Ouest, c'était vraiment bon le rugby et puis ce que nous amenait le soft power américain. Donc le catch à la base était dans des milieux comme ça, qui étaient des milieux de niche. Et ça parlait à des initiés, il y avait un public de catch qui suivait le catch, les journaux parlaient de catch, il y avait un encart pour le catch dans les journaux, aujourd'hui ça a complètement disparu. Donc vous aviez des nations qui avaient des catchs historiques, qui étaient très inspirés par leur propre culture, c'est ce qu'il y avait de très beau. Vous aviez un catch japonais qui était très 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 inspiré à la fois de certains codes du sumo et des codes du théâtre kabuki, je crois. C'est comme ça qu'on l'appelle, vous m'excuserez. Je ne suis pas un spécialiste du Japon. Peut-être que quelqu'un d'extrême-gauche sera un spécialiste du Japon, puisque c'est un pays d'extrême-droite, hein, et que ça les fait rêver. Mais le théâtre kabuki, je crois, a beaucoup, beaucoup inspiré le catch japonais. Il y avait un catch, évidemment, américain qui s'est nourri, d'ailleurs, du catch français, du catch anglo-saxon. Vous avez un catch mexicain qui est très aérien, qui a son propre style, que j'adore, avec les personnages comme El Dr. Wagner, Dos Caras, comment il s'appelait, Huracán Ramírez. Il y avait Ramsès, il y avait Nacho Libre qu'on a vu incarné par Jack Black à l'écran. C'est un film que j'adore, qui est très bizarre, mais c'est un film que j'aime beaucoup, et j'en passe, hein, voilà, j'en passe, hein. Un bestiaire, et Kemonito évidemment, Kemonito, une des grandes figures du catch mexicain, et donc voilà, vous aviez comme ça des cultures qui produisent leur catch, et c'était des milieux de niche, voilà. Et au sein des États-Unis, hein, puisque c'est les États-Unis encore une fois qui vont faire exploser le catch dans le monde, vous aviez comme ça ce milieu de catch. C'était des sportifs, des mecs qui avaient voulu faire carrière dans le football américain ou dans la boxe, hein, qui avaient des gros physiques, qui avaient un peu touché à tout, et qui tout d'un coup, après une blessure, ne pouvaient plus être aussi performants sur 100 mètres à la NFL. Alors comme c'était des blocs, et ben paf, ils s'intéressaient au catch, et puis ils se mettaient à apprendre patiemment comment catcher, et c'est extrêmement, c'est une discipline extrêmement dure. Beaucoup de gens vont apprendre le catch et finissent par abandonner. Il y a vraiment que les mecs les plus solides qui y restent, parce que c'est vraiment accepter de prendre des coups une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Par exemple, le tombé dorsal, être capable de tomber sur le dos en faisant un plat du dos, ce qui est catastrophique pour la colonne vertébrale. Vous avez des entraîneurs de catch qui vous demandent d'en faire une centaine dans... vous pouvez en faire une dizaine pour s'échauffer, vous pouvez en faire une centaine par entraînement. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que ça induit sur les corps. De se projeter en arrière et de s'exploser le dos sur le sol. Blam, 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 blam. Ils le font 25 fois pour se chauffer. Et ça, c'est entre autres. Entre autres, il y a les claques pectorales. Donc, à chaque fois, le cœur prend des coups. La cage thoracique prend des coups. Il y a des enfoncements thoraciques. Enfin, c'est, non, mais il faut vraiment ne pas connaître le milieu du catch pour penser que c'est un sport de salope. Hein. Moi, je vous garantis que un catcheur, c'est un mannequin de crash test. Hein. C'est vraiment des mecs. Je ne sais pas comment ils font pour tenir debout. C'est pour ça que j'ai un respect infini pour ces mecs-là, vraiment. Et donc voilà. Donc vous aviez comme ça ces sportifs. On n'arrivait jamais au catch directement à cette époque-là. On arrivait au catch parce que on n'avait pas pu s'insérer dans un milieu pour X raisons. Ou parce qu'on voulait pas se faire dicter certaines choses et tout. Et le catch offrait comme ça aux catcheurs une très grande liberté dans leur personnage, dans l'outrance qu'ils pouvaient avoir. Et ça réunissait non seulement des athlètes, mais des mecs qui avaient de grosses personnalités, qui avaient envie comme ça d'incarner des personnages, alors avec plus ou moins de talent évidemment, puisque tous les personnages de catch n'ont pas marqué comme ça l'histoire, bien qu'ils soient très présents hein, quand même. Hein, les principaux rivaux de Hulk Hogan sont très présents, hein, le Dr. Slaughter, le Sheik, le Iron Sheik, André le Géant, évidemment. André le Géant qui était un très très grand athlète national, qu'on a complètement... on est incapable, nous les Français, de faire un film sur André le Géant. Enfin, c'est une honte. C'est une honte. André le Géant a été le Français le plus connu du monde à une certaine époque. Enfin, faut comprendre, quoi. C'est une part de notre folklore populaire que les intellectuels parisiens 68ards ont décidé de tout simplement éliminer, de gommer, comme ils l'ont fait à la suite, enfin, comme ils l'avaient fait avant, pardon, avec nos cultures régionales et nos cultures locales et nos langues régionales, et comme ils continuent à le faire avec notre identité maintenant de manière plus globale. Donc, si vous voulez, c'est un combat qui dure depuis longtemps, si vous voulez. Mais c'était beaucoup plus dur de faire brûler Notre-Dame à l'époque de André le Géant et de dire que les Français sont des fins de race à l'époque d'André le Géant qu'aujourd'hui. Mais c'est pas à pas, comme ça, pas à pas, petit à petit, on entame notre culture et c'est extrêmement dommage. Mais il faut savoir qu'à l'époque, André le Géant a été, dans les années 80, 70, 80, a été un personnage d'une ampleur planétaire. D'une ampleur planétaire, quoi. Et on est incapable de faire des films sur ce mec-là, de raconter sa vie qui est absolument exceptionnel. Enfin, c'est des trucs... Il y a des anecdotes sur André le Géant, il faut comprendre. Hein, c'était un mec qui était atteint d'acromégalie, qui mesurait, je sais pas moi, je sais plus, hein, c'était 2m30, un truc, enfin, peut-être que je dis une bêtise, mais il était gigantesque, quoi. Il était gigantesque, il était lourd, il était fort comme pas permis. Et il y a plein d'anecdotes sur André le Géant, sur les quantités qu'il mangeait, sur le fait que quand il voyageait en avion, il achetait deux places côte à côte, parce qu'il rentrait pas dans une place d'avion. Enfin, c'était un truc de malade, quoi. Il y a des anecdotes sur les moments où il allait chier, quand il paraît qu'il chiait des blocs des trucs stratosphériques. Et on est un foutu de faire un film sur ça. On préfère raconter les trucs de Parisiens, là, les comment ça s'appelle, là, vous savez, les intrigues de Parisiens avec des nanas qui font la gueule en train de manger du fromage avec un mec dans la pièce qui est sur le point de divorcer. Mais putain, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles, en fait. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles. Ça doit se résumer à ça, la France. À Emmanuel Béart qui fait la gueule et qui tire sur sa club, quoi. Ah, je tire sur ma club pendant que toi, tu t'occupes pas des enfants. Voilà. Et moi, est-ce que j'existe en tant que femme et tout. Vous voyez, c'est ça le cinéma français, en fait. Donc, j'aime bien Jean-Pierre Bacri, tout ça, faire la gueule. Oui, tout ça. Oui. Non, mais il y a des trucs géniaux dans le cinéma français. Mais ça fait quand même un moment qu'on s'emmerde. Si vous voulez, faut se mettre à ma place. Quand j'étais gosse, je fais une aparté, bordel. Mais à la télé, c'était Emmanuel Béart qui fait une scène, elle est en train de fumer une clope comme ça, elle a une Ibar qui dépasse parce que merde, c'est mai 68, quoi, tu vois, on montre une Ibar des femmes comme ça, et elle est en train de parler à un jeune qui a les cheveux bourrifiés comme ça parce qu'elle se sent femme avec lui, elle a dégagé le vieux con qui est joué par Jean-Pierre Bacri, tu vois, je tire sur ma clope, c'est une vogue de pétasse, hein, tu vois, hein, voilà, ouais, je divorce avec lui parce qu'en tant que femme, voilà, puis là, je me fais tringler sur le canapé en face du portrait des enfants parce que je suis une énorme salope de 68ards, tu vois, et là, je me sens femme, en fait, tu vois. Voilà, il y avait ça, et il y avait « Let me tell you something, brother !» Il y avait ça, en fait. Il y avait putain de Terry Eugene Boleanti Hulk motherfucking Hogan, tu vois, qui agitait son gros doigt là, qui était gros comme la cuisse d'un jouvenceau là de l'école de foot de Clairefontaine, tu vois, qui tendait son doigt vers des mecs, qui leur fait Let me tell you something, brother, avec une énorme voix rocailleuse de mec qui va casser des colonnes vertébrales sur le ring pour le plus grand plaisir de tous les putains de gosses de la planète qui étaient en extase devant cette montagne de muscles, qui nous disait Say no to drugs and be a real American. Il mettait des coup de tête au drapeau communiste, Hulk Hogan. Vous comprenez? Vous comprenez pourquoi c'est dramatique qu'il soit mort? Il y a un mec de moins sur la planète qui mettait des coups de tête au drapeau soviétique, bordel. Pendant la guerre d'Irak, il a fait un combat de lutte contre le Iron Sheik. C'était un mec qui se baladait en babouche. Putain de merde. Mais bordel, il nous avait tout appris à nous méfier des Arabes et à détester les communistes. Est-ce que c'était pas le père qu'on voulait tout savoir, quoi? Putain. C'était génial. C'était génial. C'est pour ça que le monde est en train de devenir de la merde, parce qu'il n'y a plus de mecs comme ça. Il avait des couilles. Tu vois, il prenait parti, en fait. Ah, moi, je ne me mets pas dans la politique. Il ne faisait pas des interviews chez Libé pour dire que, ah non, mais attendez, moi, je ne veux pas parler uniquement à un public. Ferme ta gueule! Casse des colonnes! Soulève des mecs, bordel! Soulève des mecs et jette-les sur trois cordes là, dans un coin du ring, quand. Putain, c'est ça qu'on veut voir, quand. C'est ça qu'on voit, et il l'a fait. Il l'a fait, je vous parlais des excusez-moi, je mets 5 heures à démarrer, à passer la seconde. Mais Hulk Hogan arrive comme ça. Déjà, il est formé par Matsuda. Matsuda, c'était un catcheur japonais chez qui Hulk Hogan va s'entraîner. Écoutez bien ce que je vais vous raconter, parce que tout est 100% vrai. Il arrive chez Matsuda. Le premier jour d'entraînement, Matsuda lui casse la jambe. Il casse la jambe de Hulk Hogan le premier jour d'entraînement pour devenir catcheur. Hulk Hogan va en convalescence. À partir du premier jour où il peut à peine marcher boitillé, il retourne chez Matsuda pour apprendre à devenir catcheur. Quand Matsuda voit ça, il se dit, putain, Matsuda, qui était une légende du catch japonais, il se dit, putain, ce mec a l'esprit du Bushido dans la FIF, en fait. Dans son cerveau, il y a 1 million de samouraïs qui ont voté pour que ça continue, là, pour que l'entertainment continue. Donc, il va former Hulk Hogan. Hulk Hogan va rentrer dans des petites ligues mineures. Alors, il va catcher au début sur des noms très différents. Et tout d'un coup, il est repéré par Vince McMahon, qui essaye de développer le Vince McMahon de la WWE, hein, le grand président de la WWE, propriétaire président de la WWE, le repère. Et à ce moment-là, la WWE ne s'appelle pas la WWE, elle s'appelle la WWF. Et c'est une petite ligue. C'est une petite ligue concurrente à plein d'autres ligues qu'il y a sur le territoire national américain. Il y a des districts avec pratiquement des affrontements mafieux, quoi, hein, entre les propriétaires de catch. Et tu m'as volé un catcheur, et moi je te prends le tien, et t'aurais pas dû. Et en fait, t'as fait venir mon catcheur dans ta fédération, et tu l'as fait perdre. Enfin, il y avait des histoires de malades qui pouvaient aller très très loin. C'était un sacré milieu, quoi. C'était un sacré milieu. Puis les bagarres de catcheurs qui s'attrapent, parce que c'est des mecs, au bout d'un moment, ils font plus la différence entre le ring et la vraie vie. Ils s'attrapaient à la sortie des studios pour se casser la gueule. Enfin, il y a eu des trucs absolument phénoménaux. Mais c'était gigatesto, en fait. T'avais des mecs de la World Association of Wrestling, tu vois, qui allaient chercher des mecs de la WCW World Council Wrestling, Wrestling Council World, ou je sais pas quoi. Et paf, ils se foutaient sur la gueule avec leur chemise à fleurs, là, des années 70. Enfin, c'était un milieu génial. C'était un milieu génial, quoi. Et ça parlait comme ça sur les télés locales. Donc, les gosses regardaient les Iron Claw. D'ailleurs, il y a un super film qui est sorti sur ça. Il est vraiment pas mal du tout, avec Zac Efron et tout. J'ai beaucoup aimé. Donc, vous aviez comme ça des petites fédérations avec des catcheurs comme ça. Et tout d'un coup, vous avez Vince McMahon qui récupère Hulk Hogan. Et Hulk Hogan va révolutionner le catch, parce qu'il va imposer déjà un physique absolument titanesque, et en plus de ça, un charisme à toute épreuve, quoi. Hulk Hogan, il est dans un style de catch qui n'est pas très aérien, qui est percutant, qui est direct, qui est rugueux et qui se nourrit beaucoup, et c'est une première dans le catch. Avant, les catcheurs venaient incarner un personnage, faisaient appel à la foule, jouaient à la foule. Là, Hulk Hogan installe vraiment une connexion très particulière avec la foule, où il faut crier son nom pour qu'il puisse se relever, pour qu'il puisse parer des coups. Donc, il est au sol, il est pratiquement à l'article de la mort, et tout d'un coup, il y a le Hulking Up, le Hulk Up, pardon. Et donc c'est le public qui a Hulk, 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 Hulk. Et là, paf, paf, petit à petit, oh, oh, il se met à trembler de tout son corps. Ses bras tremblent et il se relève. Et l'ennemi essaie d'abattre une claque sur son crâne et hop, il la stoppe. Il la part et il se relève encore. Et il montre le public, il leur dit « Donnez-moi de la force ». Et moi, j'étais devant les cassettes, mais 4 ans après que les matchs aient eu lieu. Donc j'ai dit, 4 ans après ça, j'étais devant les cassettes, les VHS, en train de crier « Hulk, 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 Hulk » comme un trisomique 21. Putain, mes parents, ils m'ont regardé, ils me disaient « Qu'est-ce qui lui arrive à celui-là ?» tu vois. Et j'étais vraiment, on était vraiment dans un truc de « Allez, on y va, on te donne de la force, on participe, on est avec toi sur le ring. » Et c'est ça qui va révolutionner le catch, c'est que Hulk Hogan va amener les enfants sur le ring. On est avec lui, il nous protège et on l'aide quand il va mal, ce qui est un truc génial. C'est le truc du tonton raciste. Oh putain, tu m'as tiré dessus. Vous savez, quand on était gosse et qu'on avait un pistolet et qu'on tirait sur un vieux et qu'il faisait semblant de mourir, on était à balle, on était à balle. Mais c'est ça Hulk Hogan, c'est ce tonton-là, quoi. C'est le tonton qui accepte de prendre un coup de feu, d'être par terre et de dire oh, « Sauve-moi, sauve-moi !» Et puis les enfants se ruent pour le sauver parce que quand même on l'aime bien. Il dit des trucs racistes, il boit des Ricards. Alors on est là, on est hey, hey, Hulk, 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 Hulk. Et Hulk se relève et évidemment il attrape son adversaire qui est très souvent un infâme mahométan ou un communiste abominatif. Et il lui fait bouffer le sol. Il lui fait bouffer le sol. Alors, en plus c'est très drôle parce que l'Iron Sheik, donc un des ennemis de Hulk Hogan, un des adversaires les plus charismatiques de Hulk Hogan, était en réalité un athlète de lutte gréco-romaine iranien qui avait fui le régime des Mollahs, puisque vous savez que les Mollahs, c'est la pire des choses qui sont arrivées à l'Iran. Et donc ce type-là, qui avait beaucoup qui avait beaucoup d'aversion pour l'islam, a accepté de jouer un espèce de sheik irakien avec sa moustache, alors que c'était un type qui était extrêmement... C'est ça aussi les catcheurs, hein. C'est qu'ils acceptent d'incarner des personnages qui sont détestés. Le Iron Sheik était détesté par les enfants. C'était vraiment le sale bédouin extrémiste qui veut balancer une bombe nucléaire sur les États-Unis, quoi. Donc cet Iron Sheik... je me rappelle plus de son nom, c'est terrible, il a un nom vraiment typiquement iranien. Attendez, je vais le dire parce que il faut quand même rendre hommage à ces mecs-là. Attendez, bougez pas, je vais vous dire son nom parce que je veux quand même lui rendre hommage. Ce sont des mecs qui ont participé à la légende, il faut surtout pas les oublier. C'est Hossein Khosrow Ali Vaziri, dit Iron Sheik, né le 15 mars 1942 à Damghan, en Iran. Voilà. Et donc, ce catcheur a accepté de jouer le Mollah, c'est Dr. Slaughter qui jouera Saddam Hussein, pardon, excuse-moi. De jouer à la fois, il faisait des trucs avec le Dr. Slaughter qui jouait un Irakien. Et ces mecs-là, en fait, ces mecs-là représentaient des antagonismes qui parlaient aux Américains, donc c'était des types qui allaient presque tous les soirs catcher et qui se faisaient huer, quoi. Ils se faisaient huer par un public qui les détestait de représenter ce qu'ils représentaient. Et c'est encore une fois la part d'énormes sacrifices à laquelle consentent les catcheurs. Et c'est super beau, quoi. C'est quelque chose de magnifique. Moi, pour moi, ça rentre dans ce dont t'es capable de faire un catcheur pour se sacrifier, pour faire plaisir au public. Parce qu'en fait, il y a des catcheurs qui arrivent à faire plaisir au public en étant des salopards. Et c'est ça toute la magie du catch, quoi. Vous voyez? Et donc, Hulk Hogan va devenir pratiquement la personnification de l'Amérique. Et ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Alors moi, ça me régalait parce que moi, j'étais dans une famille de communistes. Les modèles, c'était des mecs de merde qui avait aucun cardio, qui avait aucun physique, et tout d'un coup, t'avais l'Amérique qui te proposait un type de 2 mètres et de 130 kilos, bodybuildé, qui contractait comme ça, qui parlait comme ça. Oh, I have something to tell you, brother. Donc c'était génial. Les héros que proposait la France et la République à ce moment-là étaient pas géniaux. Il faut dire aussi les choses. On arrivait à un moment où on te plébiscitait des trucs. Faut quand même comprendre que pendant le SummerSlam 93, bon, en France, ils te proposaient Faudel et je sais pas quoi, tu vois. Bon, bah non, en fait, tu vois, je préfère Hulk Hogan. Tu vois. Tellement je t'aime, je pense à toi. Et à côté, t'avais du « Let me tell you something, brother !» Et puis après, il portait des mecs de 130 bars et paf, il les jetait dans le public quand t'avais des gosses qui recevaient des mecs. Et puis, c'est l'époque fabuleuse de la cocaïne qui sert à quelque chose. Les cocaïnomanes aujourd'hui, c'est pour aller voir les... c'est pour aller voir des putes en Thaïlande ou pour faire de la... comment on appelle ça, bordel, pour arriver à prendre la parole en public, bande de sale merde. La cocaïne, elle était justifiée avec Mathieu Mann. Elle n'est pas justifiée quand t'es un trader de merde à la City de Londres de merde que j'encule en train de faire des manipulations de protestants sur un ordinateur pour faire 10% sur le soja et l'acier japonais, fils de pute. La coque, ça sert pas à ça. La coque, ça sert à être Mathieu Mann. À avoir des mouvements de tête aléatoires en levant le doigt au ciel. À faire la promo avec Hulk Hogan en poussant des cris gutturaux avec pas une phrase qui est prononcée. Vous avez un extrait sur Google de notre ami, comment il s'appelle, Ultimate Warrior. Et Ultimate Warrior et Hulk Hogan qui sont en train de faire la promo pour leur combat. Et Ultimate Warrior, il faisait un personnage qui parlait pas quand... T'as deux gogoles bodybuildés pleins de coques qui sont en train de pousser des cris. Voilà à quoi ça sert la cocaïne, bande de fils de pute. Putain, les cocaïnes de maintenant, ils sont dégueulasses. Ils sont dégueulasses. La cocaïne de maintenant, c'est pour pouvoir parler aux gonzesses en soirée, fils de pute. Regarde-toi dans un miroir, espèce d'enculé. C'est infernal. Les cocaïnomanes d'aujourd'hui, c'est pour faire des trucs qu'on faisait parce qu'on avait de la testo il y a 50 ans, en fait. C'est infernal. C'est infernal. Et à l'époque, ils checkaient comme ils étaient tous pleins de stéroïdes. Il y avait des roid rage. Ils étaient remplis. Ils avaient de l'antidouleur. Parce qu'il faut comprendre, hein, c'est des mecs qui meurent à 60 balais. Là, Hulk Hogan, c'est un vieux. Hein. C'est un vieux Hulk Hogan. Hein. Les Roddy Piper, les André le Géant, les Ultimate Warrior et compagnie, ceux-là, ils sont partis très tôt parce que les antidouleurs, parce qu'il faut catcher tout le temps. Moi, ça me fait rire quand j'entends des mecs qui me disent « Oui, le catch, c'est du faux combat. Tu leur fais faire trois pompes et le lendemain, ils ont des courbatures. Ah, t'as des courbatures. Ah, d'accord. Et le catch, c'est un faux combat. D'accord. Va faire une tournée de catcheur, fils de pute, à faire 130 tombées dorsaux dans la soirée, à prendre des claques pectorales dans tous les sens, à te gaver d'antidouleurs pour pouvoir tenir pour le public. Pour le public. Pour le public, pour évidemment le pognon que tu gagnes, et évidemment en tout premier lieu, parce qu'il faut bien vivre, mais pour le public. Et il y a des catcheurs qui se sont sacrifiés pour le public, ils avaient déjà suffisamment de pognon pour être riches à la fin de leur vie, et ils y sont retournés pour le public, parce que ce sont des mecs qui aiment le public. Ils avaient l'amour du public, et rien que pour ça, on leur doit le respect. On leur doit le respect, et d'ailleurs, ce sont des milieux extrêmement croyants, les milieux du catch. C'est des types, ils se sacrifient, quoi. Ils se sacrifient, je reviens dessus parce que c'est très important. Et donc, un catcheur, c'est les antidouleurs. La coque pour pouvoir tenir les cadences avec la fatigue qui s'installe. Les stéroïdes parce qu'il faut rester un monstre physique. Donc, en fait, avec ces trois trucs-là, mais le corps, il prend des jets dans la gueule, mais il se fait éclater le corps. Et les mecs sont des bêtes de somme parce que s'ils arrivent quand même à vivre jusqu'à 60, 70, alors qu'ils devraient crever à 50, hein, c'est que les types, ils en voient, quoi. Ils en voient, quoi, parce que eux, ça y va. Il y a vraiment, je vous dis, il y a vraiment le cocktail stéroïde. Parce que par exemple les bodybuilders à très haut niveau, il y a le stéroïde, il y a toute la pharmacie pour sécher tout ça qui leur fait beaucoup de mal. Mais si vous voulez, il y a pas par-dessus les traumas physiques, il y a pas les contacts, il y a pas le choc. Là au catch, il y a le choc, c'est comme si c'était des bodybuilders qui avaient à peu près des niards. Attention, ils sont pas secs comme les bodybuilders, c'est pas du tout la même chose, hein. Je veux pas enlever le mérite aux bodybuilders, mais ce que je veux dire c'est qu'ils sont dans les mêmes poids, d'accord, ils sont dans les mêmes poids. Et sauf que là, il y a de l'engagement physique, il y a des roulades, il y a projeté des mecs, il y a porté des types, enfin, le dos ramasse, les lombaires. Mais un catcheur, c'est n'importe quoi. Un catcheur, à la fin de sa carrière, c'est n'importe quoi. Il est explosé. Mathieu Mann est mort très très tôt. Ce sont des types qui sont dans des couloirs de la mort, en fait. Hein. Mais ce sont des couloirs de paillettes, hein, de feux d'artifice, de strass. Et c'est ça qui est très, très beau. Ils choisissent de vivre 50 vies en une seule de 50, 60 ans. Voilà. Mais ils ont vécu 50 vies de 80 ans. Et c'est ça qu'il y a de très beau. Et c'est ça qui rend ces mecs-là nobles. C'est qu'en fait, ils le savent. Hein, ils ne sont pas des imbéciles. Hein, ils voient bien tout ce qu'ils se mettent. Hein. Ils savent que tôt ou tard... Il y a le couperet qui tombe. Mais putain, ils envoient, ils voyagent, ils se tapent, ils rencontrent des types solides. Ils sont dans un milieu où il y a pratiquement que des mecs comme eux, donc ils se régalent. Il y a de la poulette, évidemment. Il y a de la poulette, voilà. Ça percute de la poulette, hein, ça fait n'importe quoi. Et puis un jour, ça se range, et puis ça se calme. Voilà, bon, mais comme tous les mecs qui font des trucs extrêmes, comme Tyson, comme tous ces mecs-là, comme Mirko Krokop, comme Fedor Emelianenko. Bon, lui, il n'était pas trop dans les histoires de pute et tout, mais ça compte pas, c'est un russe, il n'a pas d'âme. donc voilà, c'est pour vous dire que ces mecs-là sont dans un couloir de la mort qui n'est en fait accepté que parce qu'il y a le goût de l'épique et la volonté de satisfaire un public et évidemment de gagner sa vie. Mais si vous voulez, à partir d'un certain moment, on peut gagner sa vie différemment. Voilà, ce sont des mecs, ils pourraient raccrocher. Ils ne le font pas. Hulk Hogan, jusqu'à la fin, il est venu, il a fait des comebacks et tout. Il a régalé le public, quoi. Il a régalé le public. Il s'est maintenu très, très en forme. Alors, évidemment, grâce aux stéroïdes. Mais tout comme Stallone, tout comme Schwarzy. Ce sont des mecs qui mourront. C'est très christique, le catch. Hein. C'est très, très christique. Il y a une dimension là-dedans de vouloir, au nom du beau, au nom du souffle épique, être capable de sacrifier son corps. C'est pas au nom de l'amour et de la rémission des péchés, mais c'est au nom de quelque chose de tout aussi noble qui est le souffle épique, qui est le lyrisme. Le lyrisme qui fait cruellement défaut à notre époque. Et c'est terrible, quoi. Et on avait un lyrisme à la française, on avait un catch français avec ces personnages. Vous savez que le personnage de Shrek est une inspiration en fait d'un catcheur français qui lui aussi était atteint de maladie, qui avait le visage complètement boursouflé, qui était connu pour être un mec en plus extrêmement sympa. Je vais chercher son nom parce que c'est pareil. Il y a des... Là, je veux rendre hommage, hein, donc vous allez m'excuser de faire des petits temps morts pour aller chercher le nom de ces mecs-là, mais je veux que vous entendiez leur nom, c'est important. Maurice Thillier, évidemment, Maurice Thillier, vous irez voir, Maurice Thillier, c'était un catcheur avec une tête difforme, et c'est de lui qu'a été inspiré le personnage de Shrek. Et vous verrez que c'est Shrek, c'est Maurice Thillier, hein, en vert, hein. c'est vraiment impressionnant. Et donc voilà, ces types-là sont dans un combat pour que le lyrique existe, et pour que le hit of the night soit là, pour que l'acmé, le moment où les projecteurs chauffent, le moment où le public est en transpiration, le moment où le combat s'est bien passé, et il va y avoir la prise finale, quoi, et puis tout le monde va éructer, et on va toucher un petit peu de cette part de beauté, de cette part de divinité, pardon, de la beauté éternelle. Voilà, on va avoir une petite grâce. À la fin de tout ça, on va avoir une petite grâce. Et c'est ça qu'il y a de très beau, c'est qu'en fait, on construit un milieu, un combat, des heures de sacrifice, des os cassés, des vies brisées, des psychés tourmentés pour aller taquiner tous ensemble, eux et nous, les catcheurs et nous qui les admirons, le public, d'aller comme ça toucher à un moment, peut-être, un bout du doigt de Dieu, quoi. Voilà. Et ça, c'est merveilleux. Et ça, les boxeurs le font, les combattants de MMA le font, les pilotes de F1 le font, les Mister Olympia le font, c'est qu'à un moment, au nom de la grâce absolue, tu vas aller comme ça, paf, tu vas aller effleurer le doigt de Dieu. Et c'est ces mecs-là qui font le monde horizontal, le monde qui n'est où il n'y a pas de manifestation permanente de la beauté, contrairement au paradis, ce sont ces hommes-là qui font qu'on a des petits instants de grâce, qu'on a des petits instants comme ça où on se dit « putain, il y a quelque chose dans la vie incarnée qui mérite d'être vécu. Il faut que je fasse quelque chose de son corps, de ce corps. » Et c'est magnifique, quoi. Et c'est magnifique. Et c'est la raison pour laquelle les mecs de ma génération, on est omnibulés par l'entraînement, l'épreuve de force et tout ça, quoi. Et c'est parce qu'on a eu ces modèles-là. Faut imaginer qu'on baignait avec des Dolph Lundgren qui te mettaient une claque, qui te faisaient rebondir sur Stallone, qui te mettaient un coup de tête, hein, qui te faisaient rebondir sur Schwarzenegger, qui te mettaient un coup de coude, qui t'envoyaient dans les bras de Hulk Hogan, qui en profitait avec les vents, avec l'élan, pour te faire un German suplex. Tu tombais sur le sol, tu rebondissais. T'avais Fedor qui te mettait un finish avec une strangulation. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. On était comme ça projetés d'un modèle épique à l'autre, et ça nous a fabriqué un monde qui n'est pas celui des wok aux cheveux bleus et des tarlouses, en fait. Voilà. Il faut le dire. C'est l'absence de rugosité, c'est la fin des sports de combat, c'est la guerre qui a été faite à la notion de confrontation. qui a rendu les générations modernes, alors pas tous évidemment, mais qui a rendu les générations modernes et le monde moderne beaucoup plus chiant, beaucoup plus pénible, beaucoup, beaucoup plus pénible. Moi, les mangas de l'époque, j'en parlais avec le Raptor dans le dernier Raptor X Papacito, Raptor me faisait remarquer que c'était des mangas de gigabourrin, mais on n'avait que ça, on avait pratiquement que des mangas de bourrin, quoi. Putain, on avait des trucs où il fallait se la donner avec des voix comme ça. Et alors, l'arçon, il a repère sa moumoute et la mammute. Moi, il y avait des trucs comme ça, tu vois. Oh, Kutunoken, oh, c'est toi. Il y avait des trucs comme ça. Oh, tu ne le sais pas encore, mais tu es déjà mort. Non, ça, c'était la voix d'un méchant. Tu ne le sais pas encore, mais tu es déjà mort. Les mecs, ils explosaient parce qu'ils avaient pris les... ils avaient pris les feux. Ils avaient pris les phalanges de Ken dans le buffet, les mecs explosaient. Quand la bagarre commençait, tu sais, les mecs qui avaient en face de Ken doublaient de volume, en fait. Alors, Ken, tu t'es trompé d'endroit. Il y avait des trucs comme ça. Alors, Ken, tu t'es perdu. Et ça t'apprenait que le monde est rempli d'enculés qui veulent t'exploser la fif. Et qu'il faut être opérationnel. Faut être opérationnel. Et c'est ça qui avait... De merveilleux, quoi. C'est que c'est des trucs qui te poussaient à être opérationnel. Et Dieu sait que Hulk Hogan a poussé les gosses à être opérationnels. Alors, il a raté le virage du cinéma parce que Hulk Hogan était mal conseillé. Il rapportait beaucoup d'argent au catch, donc on n'avait pas trop envie de le voir quitter le monde du catch, à l'instar d'un Schwarzenegger qui avait quitté partiellement le monde du bodybuilding le temps d'aller faire sa carrière de cinéma et qui a manqué à ce moment-là, même si d'après ce que j'ai compris, les puristes de bodybuilding me disent souvent que quand il récupère son titre dans les années 80, c'est pas lui qui aurait dû gagner normalement. Bon, bref, donc si vous voulez, c'est quelqu'un qui a été assez mal conseillé, qui a mal négocié son virage, et beaucoup d'entre vous l'ont connu avec cette série donc, au début des années 90, donc ça devient une star planétaire, et là, il est signé pour faire la série Thunder in Paradise, bon, que j'ai revu récemment, qui est irregardable en réalité. Alors c'est quand même génial, Thunder in Paradise, parce que c'est un espèce de personnage qui vit sur la plage à Miami, et qui prend régulièrement son bateau supersonique avec son sidekick pour aller se fighter avec des Vietnamiens, des Iraniens, des Chinois, ou des Irakiens. Donc voilà le programme. Et à chaque fois, il affrontait le même catcheur qui était déguisé en chinois, en iranien. C'était un moyen pour lui de faire croquer les autres catcheurs. Alors évidemment, Hulk Hogan, étant le numéro un de son milieu pendant très très longtemps, a créé des haters qui lui reprochaient de briser la carrière d'autres catcheurs. Oui, mais en fait, c'est lui qui avait bâti ce business. C'est sur lui, c'est sur son dos que c'était bâti ce business, sur ses sacrifices, hein, sur ses choix... et sur son charisme. Donc, si vous voulez, il a fait un petit peu sa tambouille, hein, et ça lui a été reproché. Il n'en reste que les catcheurs bouffés grâce à lui. C'est lui qui a créé ce milieu. Tiens, d'ailleurs, ça me rappelle quelque chose. C'est lui qui a créé ce milieu. Donc, les gens lui en voulaient d'être aussi présent dans ce milieu, mais en fait, c'est lui qui l'a créé. C'est lui qui en a fait ce qu'il est aujourd'hui. Et d'ailleurs, il a permis par la suite à des gens de vivre sur ça, de vivre sur le catch. C'est peut-être un mec qui a permis des centaines de milliers d'emplois sur la superficie des États-Unis sur le catch, à la fois local et parce qu'il n'y a pas que la WWE aux États-Unis. Hein, y a encore des petites fédérations. Même si elles servent en fait de succursale pour la WWE, mais c'est pour vous dire quoi. C'est pour vous dire que ce sont des personnages qui ont été aussi détestés qu'adulés. Il y a eu le fameux et je voulais venir là-dessus. Il y a eu la fameuse séquence. Donc il a été intronisé au Hall of Fame et supprimé de Hall of Fame parce que il avait tenu des propos négrophobes, des propos racistes dans une discussion qui avait été publiée donc à l'époque. Alors à chaque fois on n'a pas le contexte évidemment. Vous savez, les journalistes de Libération qui font 50 kilos, qui n'ont jamais fait de sport de leur vie, se régalent de pouvoir faire des articles sur Hulk Hogan. Ah, ce salopard avec ses gros biceps. Oh, regardez, il a dit un truc raciste. Vous allez arrêter de l'adorer. Tu sais, il n'y a pas la volonté d'être aimé pour ce que toi tu vas faire. Il y a la volonté juste que les gens arrêtent d'adorer la méga star, qui est la signature des tocards et des ratés, quoi, vous voyez. Donc, il y a vraiment eu cette volonté parce que ils ont, ces mecs-là ont compris qu'ils n'arriveraient jamais à briller. Donc il y a le côté, ben lui, je veux qu'il brille moins. Vous voyez, ça, c'est vraiment le truc, c'est vraiment la marque du tocard et du mec qui est passé à côté de sa carrière et qui le sait, quoi. Et les journalistes de Libération, donc, ont fait des articles sans donner le contexte, entre autres, hein, puisque beaucoup de médias en ont parlé, pour dire que voilà, Hulk Hogan avait tenu des propos négrophobes. Alors il faut remettre les choses dans leur contexte. En fait, la fille de Hulk Hogan, qui est une fille de catcheur multimillionnaire, a commencé à faire n'importe quoi pour défier son père. Notamment, sortir avec des dealers, des mecs catastrophiques. Et parmi ces mecs-là avec qui elle est sortie avec un dealer noir. Et donc, dans l'extrait qui a été rapporté de Hulk Hogan, à un moment, il dit le N-word, quoi. Voilà, il dit le mot « putain, je suis dégoûté qu'elle sorte avec ce... » Voilà. Ce gigger, voilà. Et il dit, et en fait, l'autre partie qui a été escamotée, il dit, j'ai pas de double standard, quitte à ce qu'elle se foute avec un noir, autant qu'elle se foute avec un millionnaire qui fait 2,50 m. Et cette partie-là a complètement été éludée, et on a gardé le putain, elle s'est foutue avec un négro, quoi, voilà. Mais en fait, il le dit dans le sens où c'est un dealer. Mais comme Tyson a traité un blanc d'un. Excusez-moi, j'ai éteint le micro par inadvertance. Donc, il a traité un mec de petite salope blanche. C'est pas ça qui fait que Tyson est raciste. You white bitch. Enfin, il y avait eu vraiment des pleines insultes à l'égard de ce blanc en tant que blanc, mais parce qu'il était énervé. Et quand t'es énervé, le premier truc que tu fais, c'est insulter le mec en face, hein, sur son dénominateur le plus visible. Quand t'es un gros, c'est directement putain de salobèse de merde, directement. Quand c'est un juif, c'est sa religion, parce que tu sais qu'il est juif. Voilà, c'est quand c'est un noir, c'est sa couleur de peau. Quand c'est un blanc, il est blanc. Et voilà, moi d'ailleurs, mes haters, c'est assez drôle. Mes haters directement me ramènent à l'hispanité parce que je m'appelle Gilles Jimenez. Donc, quand ils sont fâchés contre moi, au lieu de m'attaquer sur ma ligne, c'est sur mon prénom. Mais c'est normal. Ça, c'est un réflexe humain, en fait. C'est que tu vas chercher le truc le plus primaire. Voilà, le truc le plus. Voilà, moi, bon, par exemple, quand je clash des maghrébins sur Instagram, ils me disent ah, tu t'appelles Jimenez et ça se prend pour un Français. Bon, ils n'ont rien compris au truc, mais de toute façon, je suis parti en Espagne, moi. Et voilà. Donc, c'est normal. Mal en fait qu'il le fasse. Et comme moi en privé, moi si on devait sortir tous les bougnoules que j'ai prononcés en privé, je fais ça toute la journée. Hein. Moi je me réfère en privé, je me réfère au maghrébin en disant le mot bougnoule. Ça il faut le comprendre. Voilà. Donc mais parce que c'est comme ça, parce que j'ai grandi comme ça, parce que c'est comme ça. Mais c'est comme les rappeurs qui s'autorisent à dire les guerres, les gaouris. Voilà. Bon les maghrébins quand ils parlent des Français en privé ils disent les gaouris. Ils disent pas les Français, non, ils disent les gaouris. Bon, voilà, donc faut arrêter l'hypocrisie. Et Hulk Hogan en privé a dit ça à propos d'un... Alors qu'Hulk Hogan a fait monter... Hulk Hogan faisait la pluie et le beau temps. Hein. Hulk Hogan, c'était le mec qui faisait gagner le plus d'argent à Vince McMahon, donc il faisait ce qu'il voulait. Il faisait ce qu'il voulait, y compris se barrer de fédération au sommet de sa gloire. Et pour vous dire le pouvoir de Hulk Hogan, parce que ça aussi c'est important, parce que... Faut que vous compreniez. Hulk Hogan, quand il était à la WWE faisait des records de pay-per-view, des records d'audience monumentaux. Quand il est parti à la WCW, eh ben c'est la WCW qui a fait des records d'audimat. Faut comprendre ça. C'était un mec. Donc autant vous dire que ce type-là faisait la pluie et le beau temps dans le catch. Ça ne l'a pas interdit de faire monter Mr. T. Ça a été Hulk Hogan qui a beaucoup poussé la carrière de Mr. T. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Mr. P est dans Rocky 3 et qu'ensuite il a fait les séries parce qu'il était apparu dans les WrestleMania aux côtés de Hulk Hogan. Hulk Hogan a fait monter des catcheurs noirs dans tous les sens. Donc cette espèce de procès, et d'ailleurs c'est assez drôle, parce que sur Internet, là, suite à la mort d'Hulk Hogan, vous avez les noirs de la vieille génération qui sont fans de catch, qui lui donnent un laissez-passer pour dire le N-word en disant « Mais non, vous avez rien compris, ça fait partie du truc, voilà. » Et vous avez les nouveaux, les petites mères de la woke, Black Lives Matter que j'encule, qui viennent renacler en disant « il était raciste, voilà. » Ta gueule, en fait, ta gueule, il a fait monter l'Iron Sheik, si tu veux. l'Iron Sheik. Il a fait monter des mecs comme ça, en fait. Donc, il faut comprendre ça. Il faut comprendre que cette espèce d'accusation de racisme et qu'il y a plein d'autres sportifs, y compris considérés comme intouchables, qui ont fait des trucs de zinzin. On les a pas bassinés avec ça. Lui, il était blanc. Voilà. C'est parce que, par exemple, je vous donne un autre exemple, parce que très peu de gens le savent, mais Mohamed Ali a été le disciple d'une secte qui s'appelait la Nation of Islam, abrégée NOI, qui était dirigé par un suprémaciste noir qui s'appelait Elia Mohamed, qui a prononcé la phrase suivante: « Les Blancs sont des démons qui ont été créés par un sorcier africain appelé Yacoub pour empêcher la race noire de dominer le monde. » Ça, c'est une phrase de Elia Mohamed. Ali était présent lorsque cette phrase a été prononcée. Et il a été questionné là-dessus, et évidemment il ne s'est pas démonté, et il a réaffirmé qu'il était en phase avec Elia Mohamed, qu'il était d'accord avec ce qu'il disait. Je vais même vous lire un petit extrait que j'ai trouvé, parce que je voulais être précis. Au sommet de sa gloire, Mohamed Ali embrassait sans ambages ses thèses. Donc là, en parlant de Elia Mohamed, clamant notamment n'avoir aucun ami blanc, que tous les hommes blancs américains étaient des diables, ou qu'un homme noir devait être tué s'il fricotait avec une femme blanche. Donc, il faut bien comprendre que ça, cet extrait, on ne vous en parle jamais. Ni du fait que Mohamed Ali a traité Mohamed Ali, qui était un bourgeois, qui était un métis bourgeois du nord des États-Unis, dont la famille n'a jamais connu la ségrégation, qui a traité Joe Frazier de gorille, qui était une insulte très répandue dans les milieux racistes à l'époque, a insulté, parce qu'il jouait sur les deux tableaux, Ali. Étant métis, évidemment, il y avait quand même cette capacité-là. Je ne dis pas que tous les métis font ça, mais il y avait ce truc un peu ambivalent de je suis le noir clair de peau, je peux traiter les autres noirs de singe, et en même temps dire aux blancs que ce sont des colonisateurs. Il y avait quand même un petit peu ce côté-là. Bon. Et il a eu des déclarations qui étaient extrêmement racistes. Je vous laisse imaginer s'il y avait un athlète blanc qui disait « il faut tuer toutes les femmes blanches qui fricotent avec des noirs ». Bon, voilà, Mohamed Ali n'a jamais été inquiété pour ça. On n'a jamais emmerdé Mohamed Ali pour ses positions de suprémaciste noir. Évidemment, après, à la fin de sa carrière, il a renié, parce que de toute façon, c'est un type qui a passé sa vie à renier Joe Frazier, la Nation of Islam. Il avait renié à l'époque, il avait renié Malcolm X par fidélité à Elia Mohamed, jusqu'à conduire à l'isolement tel de Malcolm X, qui s'est fait tuer par d'autres noirs. Bon, bref. De la Nation of Islam, bon bref, ça fera peut-être l'objet de notre podcast, mais vous voyez, ce sont des mecs qui ne se sont jamais emmerdés pour ça. Vous avez une pléthore de boxeurs qui ont eu des mots extrêmement durs à l'égard des blancs, des boxeurs afro-américains. Vous avez Bernard Hopkins qui avait dit « jamais je ne pourrai perdre contre un blanc ». Bon, imaginez si un athlète blanc dise « jamais je perdrai contre un noir », enfin bref. Voilà, vous avez un basketteur dont j'ai oublié le nom, qui avait refusé de signer de signer les baskets d'un basketteur croate qui était fan de lui et qui était venu le voir en lui expliquant que c'était un sale blanc et qu'il parlait pas aux blancs. Bon, ça, c'est des trucs qui ne sont jamais reprochés aux athlètes qui sont pas blancs, en fait. Voilà. Donc Hulk Hogan, effectivement, a dit que sa fille, ça lui cassait les couilles que sa fille sorte avec un nigger et qu'il aurait préféré qu'elle sorte avec un nigger de 2 mètres et qu'il soit millionnaire. Voilà. En termes de racisme, on a vu pire. Donc voilà pour la fausse polémique de merde qui a été montée évidemment de toutes pièces contre Hogan, parce qu'il fallait bien trouver quelque chose pour éclater le mythe. Mais l'homme étant ce qu'il est, il a surmonté ça, il est devenu une légende, et aujourd'hui il est pleuré, en tout cas par les hétérosexuels, dans le monde entier, et c'est bien normal, parce que c'est un type qui a été vecteur d'énergie. Et c'est ça qui va être très dur, c'est que les vecteurs d'énergie sont partis. Nous n'avons plus de vecteur d'énergie. Enfin, je veux dire, il faut regarder ce que c'est aujourd'hui les meilleurs sportifs mondiaux. Enfin, c'est fini. Il n'y a plus aucun lyrisme. Enfin, regardez les interviews de Mbappé, on se fait chier. Il a une tête de tortue ninja, il est plat, il n'a absolument aucune culture générale. Il n'y a rien. Il faut toujours et encore se référer au sport de combat pour trouver des mecs qui portent un peu un truc, les Mohicano, les Usyk, tout ça, pour trouver encore quelque chose qui nous fasse vibrer. Aujourd'hui, les grands athlètes et les grands champions, dès qu'il y a un petit peu d'argent, ils arrêtent d'exister. Ça devient des merdes consensuelles. Donc, si vous voulez, c'est c'est fini. Ces mecs qui étaient capables de supporter le nationalisme de leur pays, d'avoir des positions nationalistes, tout ça et tout, c'est fini. C'est fini les grands combattants japonais qui étaient ultranationalistes, hein. Les mecs à la Fedor, ça c'est fini. On a que des salopes aujourd'hui. On a que des salopes. Enfin, rappelez-vous Mbappé, le petit ange parti trop tôt avec sa voix complètement plate, sa tête de rien du tout. C'est pas un mec qui nous fait rêver. C'est pas un mec qui nous fait. Oui, Maradona, c'était la coque, c'était truc et tout, mais Maradona, il nous régalait, ça envoyait du steak. T'avais une espèce de Mexicain moustachos de 1m52 qui faisait des dribbles, qui était perso, qui était plein de coque, qui avait des affres sans arrêt, ça régalait. Ça régalait même Zidane dans sa tranquillité. Il y avait une espèce de force qui se dégageait, il faisait des trucs de géniaux sportivement, c'était un taiseux. Ça faisait partie de son style, hein. Je parle pas uniquement des grandiloquents, il y a des mecs qui étaient des taiseux, qui avaient un charisme monumental. George Foreman était un taiseux. Il avait un caractère monumental. Non, il y a des taiseux qui sont plats. C'est-à-dire que c'est nul. Aujourd'hui, les grandes égéries du football, c'est cette merde de Yamine Lamal, des types qui sont antinationalistes, hein, qui ont des comportements de racaille, qui ont des têtes de rien. Ça n'exprime rien, en fait. Alors, ils sont très très bons dans ce qu'ils font, mais ils n'expriment rien et ils n'auront pas la portée iconique que peuvent avoir des Mike Tyson, que peuvent avoir des Hulk Hogan, que peuvent avoir des André le Géant, que peuvent avoir même des Nadal, si on veut prendre un sport un peu plus soft, vous voyez, ce côté combatif que peut avoir un Novak Djokovic. Ce sont des mecs, à un moment, ils incarnaient un truc, il y a eu de la burne, il y a eu de la combativité, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on se fait chier. On se fait chier, voilà. Et on est, pour les mecs de ma génération, de plus en plus orphelins, parce qu'un jour, on se réveillera un matin avec un monde où Schwarzenegger sera mort, où Stallone sera mort, et il ne nous restera plus que les PD du tertiaire qui ont des demi-avis sur des demi-sujets, et ce sera fini. Les grandes prises de position, même si on se gourre, ce sera fini. Aujourd'hui, on a des athlètes qui sont extrêmement des tic-tac burger, non mais ta gueule en fait, parle de la France éternelle, parle du baptême de Clovis, arrête. Allez, soyez un peu, ayez un petit peu de substance s'il vous plaît, je sais qu'il faut gagner sa croûte, hein. Ayez un petit peu de substance, moi j'arrive à gagner ma vie, et pourtant, je dis les quatre vérités aux gens qui ont besoin d'entendre leurs quatre vérités. Voilà. Donc, s'il vous plaît, revenons à un truc, chacun à notre petite échelle, à un truc où on essaie de refaire un monde avec, putain, avec du vibrato, là, tu vois. Avec de la vibration, tu vois. Mais ça, ça touche tout, hein, même la chanson, quoi. Même la chanson. Si tu veux, même quand t'écoutais pas de l'opéra, tu connaissais Pavarotti. Même quand tu regardais pas de catch, tu connaissais Hulk Hogan. Même quand tu jouais pas au rugby, tu connais John Alomou. Même quand tu regardes pas la boxe, tu connais Mike Tyson. C'était ça, être une icône. Mon daron, il suivait pas du tout la boxe, il connaissait Mike Tyson, il suivait pas du tout le catch, il connaissait Hulk Hogan. Voilà, mon daron, aujourd'hui, tu lui parles de Yamine Lamal, il sait pas qui c'est. Ce sont des mecs qui n'incarnent rien. Quand ils parlent, on s'en tape, c'est jamais sur des sujets. Pourtant, le dernier footballeur qui a envoyé du steak, alors ça n'a pas été mis beaucoup en avant, mais pourtant, il a été génial, et c'est un demi-dieu au Portugal et en Espagne, c'est Cristiano Ronaldo, quoi. Cristiano Ronaldo, on a très très peu mis en avant ses déclarations politiques et ses prises de position, notamment sur la religion, mais Cristiano Ronaldo, il a envoyé du steak. Alors, c'est pas du tout mis en avant en France, c'est par les journalistes sportifs français qui essaient de lisser complètement ces footballeurs, mais Cristiano Ronaldo, c'est un croisé, si tu veux. Hein. Voilà, c'est un croisé. Donc voilà, Usyk. Usyk aurait été américain, on aurait eu... Usyk aurait été américain, on aurait eu... Attendez, il a fini le jeu trois fois, le mec, quoi. Il a battu tous les meilleurs poids lourds de sa génération en mi-lourd et en lourd, quoi, en poids lourd. C'est quelque chose. C'est quand même quelque chose, quoi. C'est quand même des mecs, et lui, il parle d'orthodoxie, il parle du monde horizontal et du monde vertical, il te parle de l'après, il te parle de la temporalité du vivant qui ne représente rien. Enfin, attends, mais c'est autre chose. C'est autre chose. C'est pour ça que je vous dis aujourd'hui, c'est pour ça que je mets l'accent sur les sports de combat, parce que les derniers mecs charismatiques qui sont un petit peu iconiques, ils le sont dans les sports de combat, dans les sports où Dieu est encore présent. Voilà. Yamine Lamal, il croit en quoi? En quel Dieu il croit, Yamine Lamal? Mbappé, il croit en quel Dieu? Enfin, c'est des mecs... Tu vois ce que je veux dire, c'est des mannequins décathlon, quoi. Voilà, tu leur mets un maillot, voilà, bon, ils marquent des buts. Bon, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. Parce que oui, Fedor Emelianenko, il vivait dans un monastère, Crocop, il était raciste. Hein. Mike Tyson, il frappait des mecs sur l'autoroute, mais ça régalait. Ils étaient vivants. Hulk Hogan à 8 grammes, il dit putain de négro qui se tape ma fille. Mais il est vivant. Il y a de la prouesse, il y a de la contraction musculaire, il y a du processus anabolique. Il y a du jusqu'au boutisme, du sacrifice. Il y a des antidouleurs, des articulations qui craquent. Le matin, quand ça se réveille, ça boitille. Voilà, il y a des boursouflures dans le dos parce que c'est des gros dos qui travaillent et qui font des trucs. Putain. Et aujourd'hui, il y a plus que des PD et des indécis de merde. Et des sans-avis. Ah non, moi, je veux pas représenter que les blancs salopes. Il y en a marre. Vous n'avez pas envie un peu là de vibrer, bordel? Qu'on revienne à du beau, à du grand, à du ample, à du large. Du large. Tu sais, quand tu vas dans les magasins, là, que tu dis, est-ce que vous avez du 4XL? Tu vois, non, ça arrête au 3XL, ta gueule! On veut une vie en 4XL, que ça déborde! Oui, il y aura un peu de gras. Oui, il y aura un peu de coque. Oui, il y aura un peu de racisme. Mais putain, à la fin, il y aura un suplex! À la fin, il y aura un chaos! À la fin, il y aura du coup de latte! Il y aura de la combativité, il y aura des regards qui veulent dire un truc! Il y aura du footballeur américain qui prend l'autoroute à contresens et qui s'esclaffe avec son SUV parce que les mecs ont les synapses qui marchent plus à force de prendre des rentrons dans la costille et dans le courgeon. Putain, ça, c'était des sportifs. Ça, c'était des grands hommes. Là, il se passait quelque chose. Là, tu apprenais la vie. Là, tu vivais un truc. Vous ne nous faites rien vivre. Qu'est-ce qui nous fait vivre, Karim Benzema? Qu'est-ce qui nous fait vivre? Ouais, je suis là pour l'argent. Sinon, mon cœur, il est pour l'Algérie. Bédouane ! À l'époque, Hulk Hogan, il mettait des coups de boule au Parti communiste, au drapeau du Parti communiste de l'URSS. Il foutait des claques pectorales à Dr. Schlosser, qui était habillé en Saddam Hussein. Il supportait son pays. Il portait une opinion populaire. Vous portez plus rien aujourd'hui ! Parce que vous êtes lâches ! Parce que vos pauvres sponsors de merde vous empêchent de poser vos couilles sur la table et de dire les choses. Et il y a du discours plat et ça passe à côté, bande de merde. Il n'y aura plus jamais un Stallone. Putain, Stallone, toute sa vie, il a associé l'Amérique. Toute sa vie, il a essayé de porter le rêve américain, bordel. Et vous êtes les mêmes merdes qui s'asseyaient devant Netflix, qui regardaient American Gladiator et qui vous disaient « Ah oh, putain, ouais, American Gladiator, ça envoyait le steak. » Et oui, ça envoyait le steak parce qu'il y avait American et Gladiator dedans. Qui sont deux mots du champ sémantique de la burne qui transpire. J'en ai marre de cette époque de PD, con. Avec des sportifs de fiottes. Qui prennent plus la parole pour rien. Ils nous connaissent plus. Il y a un sponsor à 1200 balles, là, de merde. Pour de l'outillage. Hein. Et tu te rappelles plus que sur ton passeport, il y a écrit France. Lâche que vous êtes. Donc oui, on est triste quand les Hulk Hogan y partent, bordel. Real American, moi je suis pas américain, mais je m'imagine être un enfant américain, mais ça te régale. Il y a un mec qui a des proportions de dinosaure qui dit le nom de ton pays toutes les 30 secondes. T'as envie de participer? Qui a envie de participer à la France? Pardon, à la République? Qui a envie de participer à ça? Putain, nos débats, c'est les jours fériés. C'est de la merde! Oui, le catch, c'est pour les américanoïdes. Tu utilises Internet, espèce de communiste de merde. C'est une invention américaine. Tu vas sur des plateformes qui ont été inventées par des Américains, juifs de surcroît. Et tu viens nous casser les couilles. Oui, l'américanoïde, toute la technologie qui t'entoure pratiquement, elle est américaine, espèce de merde. Vous me faites chier aussi avec ça. Oui, t'es fan d'Hulk Hogan, t'es un américanoïde, salope. Et toi, t'es quoi? T'es sur le Minitel français ou sur SpaceSat Internet américain? T'es sur SpaceSat Internet américain, alors casse pas les couilles, sale merde. Je prends un petit peu de Toro Loco. Attendez, je reprends une gorgée, la merde. Ouais, donc c'est triste. C'est triste, hein, parce que Mr. T va crever, Stallone va crever, Schwarzy va crever, Hulk Hogan a crevé, Roddy Piper a crevé. C'est chiant! Il va rester que les lesbiennes! Et les communistes du tertiaire, avec leur costume thermocollé de PD, là! Putain, tu viens demander des cartes, ils sont là, oui, une vis électron, bravo, ils te serrent la main! Putain, t'as l'impression d'attraper une andouillette, quoi! Un ficello! Un ficello! On serre plus des mains, on attrape des ficellos au rayon Danone. Putain. Adieu les pics. Adieu le lyrisme, adieu le souffle, combattant et combatif. Adieu la foule, les sunlight. Adieu adieu les moments de grâce. Il n'y a plus rien, tout meurt. On va se faire chier, con. Il me reste quoi, 30-40 piges à vivre, si on a de la chance, hein. On va se faire chier. Les films sont devenus nuls. Personne n'en a rien à branler des nouveaux acteurs qui crèvent. T'as Hulk Hogan qui est mort. On est tous plus choqués que quand Chadwick Boseman, il est mort. Et quand le mec qui fait Captain America va mourir, tout le monde s'en battra les couilles. Tout le monde s'en battra les couilles. Parce que c'est plat. Ça transpire rien. Il n'y a pas de signature. Et là-haut dans le ciel, j'espère que c'est encore les années 80, putain. Et qu'il est en train de faire un Royal Rumble de zinzin, avec Roddy Piper, avec André le Géant, tout le monde va bien, on est près de Dieu. Et on se latte, on s'envoie 150 millions de joules et des claques dans la gueule. J'espère que ça existe encore quelque part. J'espère que dans l'étendue de la création, quand on meurt, on rejoint ces interstices de nos vies, ces fragments de mémoire. J'espère que le paradis, c'est le quantisme, en fait. C'est un univers quantique où on peut aller comme ça sélectionner dans une très grande bibliothèque, hein, des petits moments, des instants, des ambiances, et qu'on peut les mélanger et se refabriquer un paradis dans lequel Vince McMahon est jeune, dans lequel Hulk Hogan est en train de se relever pour finir par battre André le Géant, qui sont en pleine forme, qui fassent un repas avec Lino Ventura. Putain, j'espère que c'est ça le paradis, bordel. Ah là là. Écoutez les amis, c'est pas un podcast qui parle de mort. C'est un podcast qui parle de vie. Parce que c'est ça qui compte. Et Hulk Hogan a été beaucoup plus vivant que la plupart des vivants. Qui étaient en fait des hommes zombies, quoi. Des morts. Des morts qui marchent debout. Et c'est la vie qui compte et c'est ce que vous devez retenir de ce podcast, c'est qu'il faut que la vie continue. Et pour que la vie continue, il faut continuer à faire vivre les choses qui nous rendent vivants. Le terroir, la combativité, le sport, la prise de position, bordel, la prise de parole. D'abord la prise de position dans son âme, puis la prise de parole devant les autres. Pour leur imposer ce qu'on a dans l'âme et leur dire non, je suis à contre-courant. Je vais continuer à me faire pousser des moustaches décolorées, blond peroxydé, en fer à cheval, alors que c'est has-been depuis 30 ans. Je vais continuer à promouvoir le parler occitan, alors que c'est has-been depuis 150 ans, tu vois. Je vais continuer à faire ci, je vais continuer à faire ça, je vous encule. C'est ça qu'il faut faire. Il faut qu'on devienne tous des mecs comme ça, en fait. Et il faut aller soutenir nos catcheurs locaux. Il faut aller regarder les matchs de catch, vous renseigner. Allez sur le compte de Tom Larufa, ils postent régulièrement, ils sont en train de faire du super bon boulot avec le oh oui. Vous irez voir le compte de Tom Larufa et allez voir des matchs de catch, vous serez étonnés. Évidemment, c'est pas l'ampleur et la pyrotechnie qu'il y a aux États-Unis, mais quand même, allez voir ça. C'est toujours impressionnant quand on y est. C'est toujours impressionnant. Donc faites vivre nos catcheurs français, refaisons vivre le catch à la française, redonnons au catch français une seconde vie, un second souffle, allons soutenir ces mecs-là. C'est Christ du ring, ces bêtes sacrificielles qui sont là pour nous donner un souffle épique le temps d'un soir et qui résonnera pour toujours dans nos vies, dans nos mémoires. Parce que l'homme que je suis aujourd'hui est conditionné par le petit garçon qui a regardé Stallone, Hulk Hogan, Schwarzy, Fedor et Mike Tyson foutre des KO. Et se battre et incarner quelque chose. Putain, la désincarnation, c'est ce qu'il y a de pire. C'est ce qu'il y a de pire. Nous devons rester des êtres incarnés. Voilà les amis, c'était un petit hommage à cet homme qui a été un de mes plus grands vecteurs d'énergie, qui a été un des éléments qui m'a le plus poussé vers la combativité, vers la théâtralité de la combativité, vers l'épique, vers la soif de sortir de nous-mêmes, d'être bigger than life, comme disent les Américains. Bordel. Il a été vivant. Est-ce que vous pouvez en dire autant ? C'est ça la grande question. Est-ce que vous pouvez en dire autant? Est-ce qu'on peut en dire autant? Je pense que moi, je vis. Posez-vous la question. Est-ce que vous, vous vivez? Est-ce que vous avez vécu? Est-ce que quand ça s'arrêtera, vous pourrez dire « j'ai vécu » à travers de ça et de ça, à travers telle réalisation, telle prise de position? Posez-vous la question. À bientôt, c'était le dernier podcast de l'été. Les prochains podcasts seront en exclusivité sur Patreon pour récompenser. Normalement, je prends le mois d'août de repos. Mais voilà, comme le Patreon, les auditeurs du Patreon me saucent, j'ai décidé de leur faire plaisir et de leur offrir 4 podcasts au mois d'août pour les récompenser. Donc il n'y aura plus de podcast momentanément sur Spotify, je reviens en septembre. En revanche, ils seront présents de manière inédite sur le Patreon. Voilà les amis, rejoignez-moi d'ailleurs sur le Patreon si vous voulez du contenu exclusif, les Papa Ciné Club et les Papa C Gaming qui traitent respectivement de cinéma et de jeux vidéo, ainsi que des lives exclusifs de 2h30 mensuels. Voilà, donc je vous dis à bientôt sur le Patreon. Et puis pour les autres, je vous dis à bientôt pour la rentrée de septembre. Je vous embrasse. Et ne laissez jamais les sunlight qui éclairent le ring s'éteindre. Elles ont besoin de vous. Hulk a besoin de vous pour se relever. Donc acclamons-le. Faisons écho à sa gloire et à sa puissance dans nos propres vies. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup de m'avoir écouté. À très bientôt.